savoir sûr.
Bonjour, c'est Pierre Herbulot du service économie de RTL. Merci de nous retrouver dans ce nouvel épisode de Tout savoir sûr, le podcast de la rédaction. Aujourd'hui, on parle d'immobilier et de la crise, à moins que...
Enfin, une bonne nouvelle pour ceux qui veulent acheter une maison ou un appartement. Le taux moyen des crédits immobiliers baisse pour la première fois depuis 2 ans.
Ah bah oui.
Il est passé de 4,17 à 4,11% en février, chiffre communiqué hier par la Banque de France.
Et si on se dirigeait vers une sortie de crise? En tout cas, après une année 2023 catastrophique, des ventes en baisse de 22% d'après la FNAIM et une production de crédit qui dégringole de plus de 40%, l'horizon se dégage indubitablement. Ce n'est peut-être pas le grand ciel bleu, mais la tempête est peut-être derrière nous. Pour en parler, Maël Bernier, porte-parole du courtier MeilleurTaux.com. Bonjour Maël.
Bonjour.
Et Delphine Hermant, pour représenter les agences immobilières Guy-Hockey. Bonjour.
Bonjour.
La première question est pour vous, Maël Bernier. Les taux immobiliers, c'est-à-dire le coût d'un emprunt après avoir grimpé en flèche depuis à peu près 2 ans, les taux, on les a entendus dans le son, sont en train de baisser enfin, ça y est?
Oui. Alors, très nettement, depuis le mois de janvier, en fait, on a vu arriver des premières baisses, mais très franches, puisque on est passé à ce moment-là de 4,45 en moyenne sur 20 ans à 4,05. Et à l'heure où on se parle, au mois d'avril, on est dans des taux autour de 3,80 sur 20 ans. Donc oui, ils sont déjà franchement en baisse, et ça devrait continuer un petit peu, en tout cas, encore un petit peu.
Alors, en baisse d'un demi-point quand même, donc c'est pas...
Même un peu plus, ouais,
voilà,
tout à fait.
C'est pas anecdotique.
Pas du tout.
Qu'est-ce que ça change en termes de pouvoir d'achat? Est-ce que vous avez un exemple concret?
Oui, concrètement, pour un couple moyen qui a gagné 4000 euros net mensuel, c'est une capacité d'emprunt qui a augmenté d'un peu plus de 10 000 euros. Alors voilà, donc c'est vous voyez, sur un emprunt moyen, ça peut faire un peu d'apport en moins à apporter. Ça peut faire voilà, une pièce en plus. Enfin, en tout cas, de toute façon, c'est une bonne nouvelle. Et puis surtout, ça peut faire aussi des remboursements moindres.
C'est voilà, que quand on peut jouer dans l'autre sens.
Voilà, on peut jouer dans l'autre sens. Quand le taux passe de 4,40 à 3,80, la mensualité sur un prêt moyen, elle perd aussi. Donc, c'est gagnant. C'est gagnant-gagnant.
Vous êtes d'accord avec ma métaphore météo, c'est-à-dire que l'horizon se dégage?
C'est tout à fait ça. C'est pas encore plein soleil,
bon.
C'est pas encore la canicule. On a une reprise timide, mais quand même, nous, chez Meilleur Taux, on est à plus 30% de dossiers déposés par rapport à novembre, qui était quand même le fond de la piscine, il faut bien le reconnaître. Donc, mais il y a du mieux et ça se confirme de mois en mois.
Delphine Hermant, est-ce que vous, dans les 500 agences Guy-Hockey, est-ce que ce que vient de dire Maël, vous le constatez? Est-ce que les clients reviennent? Est-ce qu'il y a des transactions?
Alors, on est effectivement sensiblement avec le même bilan et le même constat que celui que fait Maëlle. En fait, pour remettre les choses en perspective, on était passé d'un marché de confort, qui était celui post-Covid, où on déménageait, on vendait ou on achetait parce qu'on voulait une pièce en plus, parce qu'on voulait s'éloigner d'une grande ville, parce qu'on voulait de l'extérieur, etc., à un marché de contrainte l'année dernière, jusqu'à fin 2023, où là, finalement, les seuls achats ou ventes qui se faisaient étaient liés à une nécessité. Une nécessité, une mobilité professionnelle, un décès, un divorce, une bonne nouvelle, une naissance ou mariage, mais uniquement des déménagements et des transactions contraintes. Là, effectivement, oui, on fait un lien direct avec ce qui se passe sur les taux de crédit, parce qu'on constate effectivement que le marché est un petit peu plus favorable aux emprunteurs depuis le début de l'année, pour toutes les raisons que vient d'expliquer Maëlle. Et on voit effectivement revenir dans les agences des emprunteurs, enfin des acquéreurs, qui réenvisagent des projets d'achat immobilier qu'ils n'envisageaient plus ou qu'ils avaient mis sous cloche parce qu'ils n'étaient pas nécessaires absolument pour eux.
Et c'était peut-être fait recaler aussi quelques mois auparavant.
Alors, tout à fait. Il y a ceux qui s'étaient fait recaler, évidemment, et ils ont été fort nombreux. Et puis, il y a ceux qui, de toute façon, s'étaient auto-censurés, si je puis dire, parce que trop compliqué. Parce que finalement, je peux attendre. C'est pour ça que je vous parlais de marché de confort versus marché de contrainte. Maintenant, on reste prudent, nous aussi, en termes de météo. On parle d'une légère embellie parce que le marché de l'immobilier, et notamment de la transaction, est effectivement fortement lié à tout ce qui va se passer sur les marchés financiers, sur la conjoncture économique, politique, géopolitique, j'ai envie de vous dire aussi, et donc sur l'impact que ça peut avoir sur la confiance des ménages. Donc là, on arrive dans une période qui, de toute façon, de tout temps, le printemps, est un moment favorable à la mise en vente ou à un projet d'achat, notamment pour les familles qui ont des enfants à scolariser dans une potentielle autre école en septembre. Donc on arrive de toute façon dans une période qui est favorable, donc la baisse des taux est une bonne nouvelle à ce moment, et permet à certains de réenvisager de déménager.
Alors l'autre grand sujet quand on parle immobilier, ce sont les prix, parce que finalement c'est aussi pour ça que le marché était bloqué. Les taux sont remontés en flèche, mais les prix sont restés très hauts.
Oui.
Là, je me tourne une seconde vers Maëlle, mais en fait des taux à 4% il y a 20 ans, c'était, ça aurait été fantastique.
Alors 20 ans, je suis très vieille, c'est pour ça qu'il me demande à moi. Non, effectivement, on a connu des périodes avec des taux à 4. En 2008, voilà. Le pire, c'était plus de 5%. Mais le problème, c'est que ça fait très mal. On est passé de 1 à 4 en 18 mois. Il y a eu un choc assez violent.
Les prix sont restés très hauts. Est-ce qu'il y a un rééquilibrage naturel du marché? Est-ce que les prix, parce que le marché était un peu coincé, ont eu tendance à baisser, Delphine Hermant?
Alors, ce qui a bloqué le marché, comme vient de le dire Maëlle, c'est la brutalité avec laquelle les taux sont remontés. C'est pas tant la valeur, 4%, effectivement, c'est un taux qui est quand même relativement acceptable généralement. La difficulté, là, c'est qu'en 18 mois, ils ont triplé ou quadruplé. Donc, c'est ça qui a vraiment bloqué le marché. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, on sortait de 2-3 ans post-Covid où le nombre de transactions et de déménagements s'était emballé. On arrivait dans l'ancien d'un marché à 1 200 000 transactions en 2022. Et on est tombé en dessous des 900 000 en 2022. Donc effectivement blocage net, mais finalement un marché de la transaction de l'ancien autour de 900 000, c'est un marché normal. Donc un peu comme pour les taux, on revient à un niveau qui est relativement normal. En revanche sur les prix, l'impact a été finalement assez faible. Dans l'observatoire qu'on fait sur la transaction depuis 2-3 ans, on se rendait compte qu'au final, dans certaines villes, les prix ont commencé un petit peu à baisser, mais pas partout. Et de façon générale, on n'a pas observé de grandes baisses de prix. Pourquoi ? Parce qu'en fait on a un énorme déséquilibre entre l'offre et la demande. On manque de logements et on n'a pas construit assez ces dernières années. Et donc, évidemment, ce manque de logements fait que l'offre est inférieure à la demande, et quand l'offre est inférieure à la demande, de toute façon, les prix ne peuvent pas baisser significativement.
Donc
il n'y a pas de régulation naturelle de ce point de vue-là.
C'est ça. Sur un an à peu près, les prix ne sont pas en baisse.
Non, sur un an, nous, on a constaté que les prix étaient plutôt en moyenne à plus 2,2%.
Ah oui.
Donc on n'est pas du tout France entière, on n'est pas du tout en baisse.
Alors justement là-dessus, vous m'avez envoyé, avant de préparer ce podcast, une petite carte avec le prix moyen, l'évolution du prix moyen sur un an des 20 plus grandes villes françaises. Alors, j'ai passé 5 minutes dessus, j'ai pas tout compris. Je vous explique. Ça monte à Nice, Aix et Marseille, mais ça ne monte pas, ça baisse plutôt les prix à Montpellier et Toulon. Le prix au mètre carré, il augmente au Havre, mais il baisse à Rennes et Nantes. Ça grimpe à Strasbourg, Dijon, Clermont, ça baisse à Lyon, Saint-Etienne, Grenoble. C'est quoi la logique en fait de ces yo-yo de prix en fonction des villes qui sont parfois pas très loin les unes des autres ?
Il y a deux logiques. La première logique, qui est presque vrai partout, mais vous l'avez souligné, pas forcément à Toulon et Montpellier sur cette période-là, c'est le littoral.
Ouais.
Tout le littoral, tout le pourtour méditerranéen, toute la côte atlantique n'ont cessé d'avoir des prix qui ont augmenté, y compris pendant l'année dernière. Et donc toutes ces villes sont restées extrêmement attractives pour les acquéreurs et on n'a observé aucune baisse de prix, y compris par exemple sur toutes les zones touristiques. Je sais que par exemple dans certaines stations, y compris de montagne, c'était le cas aussi. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, post-Covid, on avait eu cette revanche des villes moyennes. On avait eu beaucoup de sujets dans les médias, notamment là-dessus, où toutes les villes moyennes, y compris celles que vous avez citées actuellement en baisse, avaient énormément augmenté parce que des habitants des grandes villes, qu'elles soient Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Nantes ou autres, avaient commencé à se dire « Tiens, finalement, je vais peut-être pouvoir aller télétravailler et donc m'éloigner d'une heure ou de deux heures de la grande ville. »
Voilà, pour avoir un petit jardin, etc.
Et donc, toutes les villes moyennes, quelle que soit leur situation géographique, y compris au cœur des territoire, s'était retrouvé avec des augmentations de prix. Et en fait, trois ans après...
Retour à la réalité.
Retour à la réalité, exactement, pour ces villes-là. Et celles qui, finalement, sont un petit peu moins attractives, vous en avez cité quelques-unes, sont les premières sur lesquelles les prix baissent. Donc, en fait, ça se rééquilibre un peu naturellement. On revient à la situation d'attractivité des villes qu'on connaissait il y a 4-5 ans, en fait. Et puis, les premières à baisser sont les premières à avoir augmenté à cause de cet effet Covid.
Maëlle Bernier, on revient sur la production de crédit. Donc, je le disais, à peu près moins 40% l'an dernier. Alors, pour doper cette production de crédit, justement, le nouveau ministre du Logement, Guillaume Kasbarian, a lancé des pistes un peu façon concours Lépine. Alors, on a entendu plein de choses, le prêt in fine, un crédit hypothécaire. À un moment, c'est le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, qui parlait d'un prêt à taux bonifié. De quoi on parle et est-ce que c'est ça dont le marché a besoin ?
Le marché, il a besoin... Non, alors honnêtement, dans tout ce que vous avez cité, il y a des choses qui existent déjà, mais qui sont en fait réservées à une clientèle plutôt aisé, notamment c'est le cas des prêts in fine, hein. Beaucoup d'investisseurs locatifs passe par le prêt in fine, parce que vous payez plus cher d'intérêts, mais comme vous êtes un investisseur locatif, vous défiscalisez les intérêts, donc vous pouvez supporter. Un primo-accédant ne pourra pas supporter ça. Le prêt bonifié, je pense que globalement, on voit bien que le prêt à taux zéro a quand même subi une coupe courte. Hein, donc, on sait très bien qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. Donc
c'est pas trop la tendance,
faire
là.
Miracle. Nous, ce qui est sûr, c'est qu'on pense qu'il y a des problèmes de régulation du marché qui ont été mises en place par des règles très strictes réglementaires, notamment par le HCSF qui aujourd'hui d'ailleurs est un peu en discussion.
Le Haut Commissariat à la Stabilité Financière.
Voilà, et qui a décidé, rappelons-le, à partir de janvier 2022, parce qu'avant ce n'était pas le cas, d'imposer aux banques des règles très strictes sur l'endettement des ménages.
Mais c'est un moment où le crédit s'obtenait assez facilement.
Oui, alors au départ c'était des recommandations. On a vu ça arriver en fin 2019, début 2020, puis effectivement le crédit c'était open bar à cette époque-là. Alors, open bar, mais je tiens à rappeler, les banques n'ont jamais fait n'importe quoi. Si elles avaient fait n'importe quoi, la crise qu'on traverse aujourd'hui donnerait, ça laisserait quand même pas mal de gens sur le chemin. Or, on n'a pas de défaut de paiement sur le crédit immobilier.
Ouais. Les règles, c'est quoi? C'est 25 ans maximum, 35% de taux d'endettement.
C'est ça, exactement. 35% des revenus nets, quels que soient les revenus, quelle que soit la situation familiale. C'est-à-dire qu'on apprécie de la même manière une famille qui gagne 4000 euros, qui a trois enfants, avec l'aîné qui va partir faire des études pour lesquelles il va falloir payer beaucoup plus, et un même petit couple qui a 4000 euros net et qui a 30 ans et qui n'a pas d'enfants. Il est bien évident que le deuxième a un reste à vivre plus important. Il ne s'agit pas de surendetter l'ensemble de la population française, il s'agit juste de laisser les banques faire ce qu'elles faisaient auparavant.
Assouplir les règles et faire confiance aux banques.
Apprécier, regarder le reste à vivre, ce qu'on appelle le reste à vivre, et faire confiance en banques. Les banques n'ont aucun intérêt à devenir propriétaires d'un parc immobilier qui serait invendable.
Ouais.
Donc elles continueront de prêter de manière prudente, mais sans être sous tutelle.
Alors, c'est précisément sur quoi? C'est sur la durée d'emprunt? C'est sur le taux d'endettement?
Moi, je pense que c'est sur le taux d'endettement. La durée, honnêtement, le 30 ans, c'est une durée qui peut exister.
Parce
mais
que vous êtes en Grande-Bretagne.
Ça s'est fait chez nous aussi, mais là, le 30 ans, vous l'amortissez quand même. Si vous avez une revente rapide au bout de 3 ans, vous avez quand même amorti très peu de capital. Ça peut exister, mais il faut vraiment le regarder de manière prudente. En revanche, je plaide sur cette fameuse règle du 35%. Écoutez, on a regardé les dossiers meilleurs taux. On a quand même plus de 30% des dossiers aujourd'hui qui sont dans cette zone grise, c'est-à-dire entre 35 et 39% d'endettement. Donc, qui ne sont pas non plus, on ne parle pas de surendettement, mais vous voyez, ça fait quand même plus d'un tiers des dossiers à l'heure encore où on se parle.
On pourrait déconseiller.
Malgré la baisse des taux. Qu'on pourrait déconseiller, en tout cas pour certains, certainement.
Delphine Hermant, quand on parle de crise de l'immobilier, on met aussi dedans le marché de la location, qui subit les contre-coups de celui de la transaction. Hein, quand on n'achète pas, on libère pas un logement et du coup, on laisse pas la place à celui qui cherche derrière. J'avais des chiffres de la plateforme Se Loger. 36% de biens disponibles en moins à la location en 2 ans. C'est considérable. À Rennes, Mathieu Lopineau, journaliste RTL, a constaté cette galère il y a quelques semaines dans une agence immobilière, sur un bureau, une pile de dossiers.
Et tous ces gens-là, vous voyez, il y en a quand même beaucoup, attendent qu'on les appelle pour leur faire une proposition de logement. Et donc malheureusement, comme on n'a rien...
Qu'est-ce que vous cherchez?
Un T3 en colocation avec une amie.
Là, je vais rien avoir aujourd'hui. Ce que je peux vous proposer, c'est de vous faire remplir une fiche de renseignement. Et puis moi, comme ça, je peux vous recontacter en priorité avant de publier sur les sites d'annonce, si j'en ai qui se libèrent.
Vous avez fait combien d'agences?
Là, on est à notre 10e et tout est négatif.
Ce marché-là aussi pourrait bénéficier d'une reprise ou alors c'est plus compliqué?
Alors c'est un petit peu plus compliqué, d'abord parce que ce marché-là de la location était déjà tendu avant même qu'on connaisse un blocage des transactions l'année dernière, et donc ce que vous disiez tout à l'heure, pour les primo-accédants notamment, qui n'ont pas pu acheter en 2023 et qui n'ont pas libéré de logements à la location pour d'autres locataires possibles. Donc c'était déjà le cas dans beaucoup de zones tendues, et c'est plus compliqué parce que c'est un marché qui est encore plus contraint que le marché de la transaction, pour plein de raisons. On a l'encadrement des loyers dans un certain nombre, et un nombre de plus en plus croissant de villes en France. On a la loi climat et résilience avec l'impact sur le diagnostic de performance énergétique et donc la possibilité demain de louer certains types de logements.
Logements classés G qui ne pourront plus être loués à partir du 1er janvier 2025.
Et voilà. Et on a déjà les G+, c'est-à-dire ceux qui sont les pires en termes de consommation d'énergie, qui sont déjà interdits. On a aussi, malgré tout, parce que la situation financière et le pouvoir d'achat des Français a été chahuté l'année dernière, de plus en plus d'impayés aussi. Et donc, on a des bailleurs de plus en plus frileux pour toutes ces raisons-là aussi. Donc, c'est à la fois un dommage collatéral des logements qui n'ont pas été libérés par des candidats à l'accession à la propriété, mais c'est aussi pour ces raisons-là. Et puis, pour les raisons qu'on disait tout à l'heure, parce qu'on manque cruellement d'offres dans le neuf. On n'a pas construit assez ces dernières années. Les chiffres de la promotion et de la construction sont catastrophiques. Même en un an, on est à moins 30% de mise en chantier. Et ces logements-là, souvent, étaient, notamment pour, je pense aux studios, aux deux pièces, et parfois même jusqu'aux trois pièces, étaient des logements qui étaient achetés par votre voisin, votre coiffeuse, votre charcutier, enfin votre collègue de bureau, pour se constituer un patrimoine et qu'ils mettaient à la location en attendant, y compris avec des aides ou des incitations fiscales dont on a parlé tout à l'heure, dont vous avez parlé avec Maëlle, et qui du coup n'ont pas non plus été mis sur le marché cette année. Et donc ça aussi, ça contraint le marché de la location. Et effectivement, on a des dossiers, enfin des personnes, des foyers, qui soient seuls, en couple ou même en colocation, qui sont des gens qui gagnent très bien leur vie et qui auraient largement de quoi financer un loyer, et qui se retrouvent sur le carreau, effectivement, avec des piles qui grossissent.
Vous les avez aussi chez Guy Auclay,
on les a aussi, hein. On a effectivement, vous citiez un chiffre tout à l'heure, on a une demande qui a quasiment doublé avec une offre qui a diminué d'un tiers. Dans certaines régions, je pense notamment par exemple à Provence-Alpes-Côte d'Azur, là on a un vase communicant direct, moins 40% d'offres, plus 40% de demandes.
Ah oui.
Comment on fait pour loger les Français ?
Il y a un sujet aussi dans les grandes villes, donc vous parliez du sud de la France, à Paris c'est encore plus fort que ça, et il y a les Jeux Olympiques qui arrivent. Parfait. Avec la tentation pour certains propriétaires de passer de la location longue durée à la location de courte durée sur plateforme. Ça, c'est quelque chose que vous voyez venir aussi ?
Alors, on le voit très clairement. Et dans notre observatoire du premier trimestre, on a fait le distinguo entre la location vide et la location meublée en termes d'offres. Paris et même, j'ai envie de dire, l'Île-de-France, parce que notamment la première couronne est concernée aussi. On a une offre locative qui est en baisse de 10%. En moyenne, mais en réalité, elle est en baisse de 30%, même de 35%, uniquement sur les locations vides. Ce qui signifie... sur les locations vides, pardon. Ce qui signifie que les propriétaires se sont dépêchés de récupérer leurs biens pour pouvoir demain le mettre en location avec des loyers sur de la location saisonnière qui vont être x3 ou x4.
Maëlle Bernier, meilleurtaux.com, la question à 250 000 euros, puisque c'est à peu près le montant moyen d'une transaction immobilière en France. C'est la question qu'on pose tout le temps à RTL quand je fais un sujet sur l'immobilier. Est-ce que c'est le moment d'acheter ?
Alors, écoutez, en tout cas... Moi, je pense que on achète parce qu'on a un projet de vie, comme l'a dit Delphine, on se marie, on divorce, il y a des enfants qui arrivent, voilà. La situation aujourd'hui, elle est effectivement bien meilleure qu'il y a quelques mois. Il faut être très clair, si vous achetez aujourd'hui, si vous commencez vos démarches aujourd'hui en avril, votre dossier va sortir en juin. Pourquoi je dis ça ? Ça veut dire que vous allez prendre la baisse des taux qui va continuer d'arriver. Donc, vous ne serez pas à 3,80, mais vous serez plutôt à 3,5. Moi, j'ai une idée très simple. Si vous avez moins de 40 ans, c'est un choix personnel. Ça dépend de là où vous achetez, là où vous habitez, votre situation familiale, célibataire, à deux, en couple, voilà, bon, avec enfant ou pas. En revanche, passé 40 ans, il y a un peu la crise de la quarantaine qui fait que si on se projette à 25 ans plus tard, on arrive à l'âge de la retraite. Et ne pas être propriétaire à l'âge de la retraite, c'est se mettre dans une situation de précarité très dangereuse, parce que vous serez, si vous arrivez à 65 ans, que vous n'avez... Ça ne veut pas dire que le bien dans lequel vous êtes, là où vous allez acheter, vous allez y rester. Ou ça ne veut pas dire que... Mais vous allez peut-être le revendre, ça vous fera un capital, là, vous pouvez vous loger ailleurs. Si vous êtes locataire sans rien, et que votre propriétaire décide, quand vous avez 65, 67 ans, je ne sais pas quel âge sera la retraite d'ici là, mais de reprendre le bien, vous ne pourrez pas l'acheter, parce que là, vous n'aurez plus de crédit, puisque vous serez à la retraite. Et vous ne pourrez pas non plus faire face à des hausses de loyers qui seront supportées sur le marché. Donc, il y a une question de prudence. Et honnêtement, vu l'évolution des retraites dans les années à venir, il est bien évident qu'on n'aura pas, la génération qui a 40 ans aujourd'hui, n'aura pas celle qui ont ses aînés. Donc, c'est une question de priorité. Ça ne veut pas dire qu'il faut acheter à tout prix, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter plusieurs fois. Ça veut dire qu'il faut se constituer un patrimoine à l'âge de 40 ans. Pour moi, c'est une priorité absolue.
Définitivement, même réponse.
Alors, je vais avoir du mal à dire mieux, parce que je suis complètement alignée avec ce que vient de dire Maëlle, et c'est une situation extrêmement claire et limpide qu'elle vient de décrire, notamment en faisant le distinguo entre les moins de 40 ans et les plus de 40 ans, donc je souscris totalement à sa démonstration. Je pense effectivement que le bon moment pour acheter, c'est en fonction de son projet de vie. Et d'abord et avant tout, en fonction de son projet de vie. Bien sûr, parfois, on peut avoir des conditions, comme on vient de se le dire là, plus favorables ou moins favorables en termes de crédit, d'offres, etc. Mais c'est d'abord et avant tout en fonction de son projet de vie. Et puis, il y a une différence aussi, est-ce que j'achète pour vivre dedans ou est-ce que j'achète pour ce que j'investis dans un patrimoine et je vais mettre en location. Donc ça aussi, c'est un choix différent en fonction des situations. Et pour moi, c'est uniquement à l'aune de ces éléments-là qu'il faut prendre sa décision. Et quand on n'a pas de nécessité absolue ou de se constituer un patrimoine parce que l'âge tourne, comme Maëlle vient de le dire, on peut peut-être se permettre d'attendre, effectivement, des jours meilleurs, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, s'il y a bien une constante dans notre monde, qu'il soit immobilier ou pas, c'est le changement. Donc, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Je pense qu'effectivement s'orienter aujourd'hui vers un projet d'achat en espérant contracter un emprunt d'ici le mois de juin, comme vient de le dire Maëlle, avec des taux qui seront potentiellement un tout petit peu plus favorables encore, si vous pouvez vous le permettre et si ça correspond à votre projet de vie, il ne faut surtout pas se gêner.
Et ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que les taux sont fixes en France, c'est-à-dire que s'ils remontent ou s'ils rebaissent, enfin l'avantage c'est que s'ils baissent, on peut renégocier
son
crédit. Exactement,
c'est-à-dire qu'en fait on ne prend aucun risque parce qu'on ne montera plus, donc la mensualité que vous pouvez assumer, elle ne montera pas. En revanche, il est bien évident que si dans 2-3 ans, et on a vu ça déjà plusieurs fois dans les 10-15 années qui ont précédé, vous renégocierez peut-être à 2 et là, non seulement vous aurez acheté avant que les prix remontent, et en plus vous négocierez une mensualité à la baisse. Donc, c'est vraiment la grande force du crédit français, c'est le taux fixe.
Merci beaucoup Maëlle Bernier de MeilleurTaux.com.
Merci à vous.
Merci Delphine Hermant du réseau d'agences Guy Hauquet. On va retenir que ça va de mieux en mieux, que l'horizon se dégage quelque peu pour l'immobilier et notamment les taux en France. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que vous pouvez partager ce podcast sur rtl.fr et l'appli RTL, que vous pouvez le noter aussi sur vos plateformes d'écoute habituelles.